on a parti de quoi? Ça a eu beaucoup de réactions. On parle d'argent, on vient parler des taxis, ça c'est un débat, là. Mais là, il n'y aura pas de débat, tout le monde va être plus riche, on s'entend? Tout le monde. Bon. C'est juste qu'avant, pour essayer d'être plus riche, souvent on se faisait parler de deux choses. L'immobilier, achète-toi un bloc, ou le marché de la bourse, achète des actions. Vous êtes d'accord? Achète un bloc, achète des actions. Aujourd'hui, en 2019, c'est encore vrai. Il y a encore du monde qui font de l'argent à bourse, mais tous les experts le disent, c'est montagne russe. On joue au yo-yo, c'est insécure, c'est volatile. Les blocs, l'immobilier, ben oui, ça peut être encore bon pour certains, mais tabarouette, il y a un autre qui se planque, là. C'est pas vrai, là. C'est pas comme le 15 ans, là, où t'achetais et ça prenait de la valeur. J'en ai parlé tantôt un peu, là. C'est plus tough. Alors, immobilier et bourse, les deux secteurs traditionnels pour s'enrichir. Si vous avez 20, 30, 40 ans, je regarde les jeunes devant moi, là. Vous devez commencer à y penser, là. Quand t'es plus vieux, t'as déjà, tu devrais normalement avoir placé tes affaires, fait tes choix. Mais vous autres, vous êtes là-dedans, vous commencez à travailler, oui. Là. Il y a des marchés alternatifs, on en a parlé l'autre jour. Le marché de l'art, le marché des collectionneurs, que ce soit les bouteilles de vin, que ce soit les tableaux, que ce soit
les bandes dessinées,
les voitures de collection, les bandes dessinées. Il y a plein de gens qui investissent ailleurs qu'en bourse et dans l'immobilier. Fait que vu que ça comme on a eu beaucoup de réactions, on a dit, tiens, on va creuser ça. Fait qu'on vous présente le premier des secteurs non traditionnels pour s'enrichir ce matin. Le marché de l'art.
Oui.
Élisabeth.
Oui, puis j'ai parlé à une sommité vraiment dans l'investissement en art. Il s'appelle Paul Maréchal. Il est chargé de cours sur le marché de l'art à l'UQAM, collectionneur lui-même et spécialiste sur l'œuvre de design graphique d'Andy Warhol, qui l'a lui-même, en fait, c'est comme ça qu'il a fait le plus gros de son argent, c'est avec cette collection-là.
Il y en a? Il y a des Andy Warhol?
Oui, la collection de design graphique. Oui.
En passant, là, si vous ne le situez pas, moi, je ne suis pas un expert non plus. La soupe Campbell, c'est lui. Là. Je sais que c'est des peintures bizarres. Marilyn Monroe avec des
oui,
couleurs bizarres. C'est lui. C'est un peintre qui est controversé, c'est pas tout le monde qui aime, mais ça vaut une fortune,
oh oui.
Ces œuvres.
Puis il va vous en parler, mais en premier, je lui ai demandé, est-ce que c'est un marché qui est plus grand qu'on pense, le marché d'investissement en or, ou est-ce que c'est limité, puis est-ce que c'est un marché qui se porte bien?
On n'en parle pas souvent.
Non, hein?
On parle des actions, on parle des blocs, de l'immobilier, tout le temps,
On a l'impression que c'est petit. C'est limité, ce marché-là, ou bien
les
c'est
tableaux,
juste...
Les tableaux, ouais, on n'en parle pas, mais
est-ce que ça se porte bien, ce marché-là?
C'est très limité. Les gens qui achètent des œuvres d'art sur une base régulière, j'estime qu'au Québec, c'est 0,5% de la population qui achète des œuvres là de façon là plus ou moins régulière. Donc c'est une portion là très congrue du marché. C'est un marché qui se porte très bien, un peu comme les actions à la bourse. Ce sont les meilleures œuvres par les meilleurs artistes qui coûtent le plus cher. Vous avez par contre une valeur, un artiste qui est confirmé, qui a une place dans l'histoire de l'art. Ben on pourra jamais lui enlever cette place là. Vous savez, Marc-Aurel Fortin, c'est un des plus grands peintres au Québec des années 1920-1930. Alors, c'est terminé, là, cette époque. On les connaît tous, les artistes de cette époque-là. On connaît leur œuvre. Donc, on peut pas revenir en arrière. Contrairement à une action en bourse qui, elle, peut fluctuer selon les plus ou moins bonnes transactions d'une entreprise, hein.
C'est ce qu'on me dit. Moi, j'ai investi un peu dans l'art, mais c'est bien plus pour décorer mon condo. Là. C'est pas dans un profil investisseur. Mais j'ai quand même décidé, soit à des conseils d'amis, de mettre un petit peu d'argent là-dedans. Et j'ai posé des questions. Et on me dit ceci, ça confirme. Là. Sylvain, tu peux pas perdre. Au pire, ça montre pas.
Ouais.
Ce que tu achètes comme tableau dans 15-20 ans, si ça vaut la même affaire, c'est comme si tu avais perdu, dans le sens où, mais ça ne pourra pas baisser.
Si par l'artiste contre, est confirmé, c'est ça.
Par contre, si l'artiste monte, commence à exposer aux États-Unis, à New York, etc., tu peux vraiment faire de l'argent. C'est ça qu'il dit, lui-là. Oui. Là. Il dit, contrairement à une action, ça reculera jamais.
Bon, moi, je veux me lancer dans l'investissement en art. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un milieu qui est très fermé et inaccessible, que c'est un club de riches, là, vraiment?
Bon, ouais,
est-ce que
ouais.
C'est une fausse impression?
Voulez-vous que je vous dise la raison pour laquelle c'est assez fermé? C'est parce que les lieux où se transigent les œuvres d'art, c'est souvent derrière des portes closes, de la galerie ou de la maison de vente aux enchères, et les gens sont intimidés. Ils sont très gênés de rentrer dans une galerie où il n'y a jamais beaucoup de monde et de regarder les œuvres et de se faire, comme on dirait au Québec, tomber dessus par un vendeur qui va les questionner puis leur faire de la vente sous pression. Il faut surmonter sa gêne là ou ses réticences. Et à Montréal, il y a une foire en art visuel qui s'appelle la foire papier. Donc, ce sont des œuvres sur papier. C'est idéal pour commencer une collection si vous avez des moyens limités. Parce qu'il y a des œuvres à des prix, là, on commence à 200 $. Parce qu'une fois que vous avez une certaine connaissance, c'est plus facile pour vous de de fréquenter une vente aux enchères ou une galerie ou autre. Hein. Faut prendre un peu d'assurance avant. Puis c'est une façon de faire parce que quand il y a beaucoup de monde, ben, vous savez, toute l'attention est pas sur vous. Et le galeriste qui vous voit entrer dans sa galerie ne mettra pas toute son attention sur vous nécessairement.
Je sais pas si je vais le faire. Moi, j'ai un petit côté très conservateur, pas trop gambler. Mais j'aime rentrer dans les boutiques de galeries d'art, oui, là, dans le Vieux-Québec. J'adore ça, faire le tour. Et des toiles à 500 piastres, 1000 $ qui se vendent aujourd'hui, 10 000, j'en ai vu. Mm-hmm. J'étais témoin là, de ça. Hein, donc bien beau ça. Là, tu regardes un peu. Non, pas moyen. Comment ça coûte 500 000? Puis je revois ça quelques années après. Je pourrais vous nommer des noms.
Oh, oui, vraiment. Là.
Je veux pas. Ça existe. Il y a raison. Ça peut partir à 100, à 200, 300.
Oui.
Et ça peut, à un moment donné, exploser.
Ben oui. Puis là, justement, si vous voulez vous lancer là-dedans, est-ce qu'il faut être riche à la base? Est-ce qu'on peut commencer? Moi, ouais, là, mettons, là, je dis, je sais pas, une fortune est très, très élevée. Je connais pas ça du tout. Comment je fais pour m'initier quand je pars de rien puis j'ai aucune connaissance là-dedans?
Oui. Sauf que, moi, je vous dirais, si vous êtes très fortuné, vous avez les moyens d'acheter des œuvres de grand calibre qui va faire en sorte que vous risquez peu de perdre. Si vous êtes moins fortuné, vous pouvez quand même acheter de l'art, mais vous avez de vos devoirs à faire. C'est-à-dire que vous allez devoir vous informer. Les Québécois souffrent énormément d'analphabétisme en art visuel. Et c'est le grand handicap. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune école qui offre des cours d'histoire de l'art avant le cégep. Je dis toujours aux jeunes collectionneurs, avant d'acheter, faites vos devoirs. Il faut acquérir une connaissance. Et comment cette connaissance-là peut s'acquérir? C'est très simple. C'est en fréquentant les expositions dans les musées, les expositions dans les galeries, en lisant des articles dans les magazines spécialisés comme Canadian Art ou d'autres, de s'informer. Et surtout, le conseil que je donnerais à tous les collectionneurs qui veulent débuter, c'est d'en voir le plus possible. Plus vous voyez d'œuvres, plus vous allez être à même de vous forger une meilleure opinion et d'exercer un meilleur jugement quand vous achèterez vos premières œuvres.
Il y a un autre bon avantage aussi. Hein. Je me souviens que quand j'ai acheté mes tableaux, les gens qui venaient chez nous, évidemment, ils m'ont demandé, ah, c'est beau, il y en a qui trouvent ça beau, il y en a peut-être qui trouvent ça laid, puis ils l'ont pas dit, mais admettons, on sait
ouais,
jamais,
c'est ça.
C'est ça. Hey, c'est beau, Sylvain. Hey, il y en a qui m'ont demandé, t'as payé ça combien? Je leur ai dit. C'est pas une fortune, là, rassurez-vous. Je leur ai dit. Je sais pas payer 100 piastres, c'est plus que ça. Ah, ça, j'ai payé. Hein? Ah, ben, ouais, quel risque. Là, je leur ai expliqué. Un. Mais j'ai dit, non, d'habitude, ça baisse pas.
Ouais.
Au mieux, ça va juste monter.
Mm-hmm.
OK, donc là, ils me disent, c'est une forme d'investissement. Ben, je dis oui. D'abord, je les aime, mes tableaux, mais oui, c'est aussi de l'investissement. J'ai dit un autre avantage aussi. Toi, t'as acheté des actions, ouais. T'es en garde-tu à tous les jours?
C'est vrai.
Ça fait. Est-ce que t'es affiché sur ton mur, tes actions? Est-ce que ça rend ton environnement de vie plus agréable? Est-ce que tu regardes ça? Puis, ah, tu as raison. C'est non seulement il peut avoir une plus-value financière, mm-hmm, mais c'est aussi agréable à regarder. Là,
ah,
tu
oui,
choisis ton tableau, acheter des coups de cœur.
Mais celui qui a des actions, il a pas besoin de les épousseter, par exemple.
Non, c'est vrai.
Ouais.
Bien sûr. C'est...
Mais là, parlons de chiffres, là, justement. Comment on peut faire de l'argent avec l'art?
Ouais,
combien on peut faire d'argent avec ça? Puis qu'est-ce qu'il faut regarder exactement dans le choix d'une œuvre pour faire de l'argent
des
avec
jeunes,
ça?
Moi, je pense que c'est comme les cartes d'hockey. Il faut que tu achètes rookie.
Ben, c'est ça.
Faut que
tu achètes
des peintres au rookie.
Je veux des exemples.
Ben, écoutez, par exemple, des gravures de Jean-Paul Riopel, on en trouvait en vente aux enchères publiques jusqu'à il y a 5 ans à 1000 $. Et aujourd'hui, ces œuvres-là valent 5, 6, 8 000 $. Parce que, évidemment, Riopel est un artiste canadien de premier plan, le premier artiste canadien international du 20e siècle. Et puis, peut-être à peu près le seul aussi. Moi, quand j'ai commencé ma collection d'œuvres de Andy Warhol, j'ai collectionné tout un pan de l'œuvre de Warhol qui était négligé, à savoir le design graphique. Donc, tout ce que Warhol avait fait comme papier peint, des sacs de course, là, des shopping bags, étiquettes de bouteilles de vin, cartes de Noël, etc., des pochettes de disques. En fait, tout ce que Warhol a créé comme œuvre qui n'était pas destiné ni aux galeries ni aux musées, mais qui était destiné aux amateurs de musique, aux amateurs de vin, aux amateurs de livres, etc. Donc, ce sont des œuvres qui n'avaient pas circulé dans le réseau traditionnel de diffusion de l'art. Donc, j'ai pu construire cette collection-là en m'intéressant à un aspect majeur de l'œuvre d'un artiste qui a été négligé. Et c'est souvent une très bonne piste pour les jeunes collectionneurs. Un très bon conseil que je pourrais leur donner, c'est ne vous intéressez pas nécessairement à ce à quoi tout le monde s'intéresse, à moins que vous ayez beaucoup de moyens, parce que c'est ce qui fait augmenter les prix. c'est la demande. Plus il y a de la demande, plus les prix augmentent. On peut certainement affirmer que les prix de Warhol ont doublé depuis 10 ans. Alors oui, c'est certain. C'est sûr que ça a pris beaucoup de valeur.
Si on passe notre temps à parler des actions de Netflix qui ont doublé de plein de patentes puis tout, mais lui, ses œuvres d'art ont doublé en 10 ans.
Puis il s'est intéressé à une œuvre d'un artiste qui était méconnu et négligé. Il a dit si l'artiste a fait une partie de son œuvre puis les gens s'y intéressent un petit peu moins, ben allez là-dedans.
Encore raté mon coup. Je suis pas chanceux, Je vous l'ai dit que j'ai acheté quelques actions là, puis j'ai acheté Boeing. L'autre affaire, je vous ai parlé de Cynthia Coulombe-Bégin, ça vous dit, est-ce que ça vous dit de quoi? C'est une artiste peintre de Québec dont j'adore les tableaux, je vous en ai parlé il y a pas longtemps, promenait dans le Vieux-Québec, ah, je passais à un cheveu d'acheter, j'ai été la voir à sa galerie, à un moment donné, on a discuté tout ça, elle m'a mentionné les prix, j'étais sur le bord de l'acheter, là, OK? Je l'ai pas faite, j'ai choqué. Mais résultat, elle est rendue à la voie, là. C'est elle qui a fait toutes les peintures que vous voyez dans le décor de la voie.
Oui?
Il y a eu full reportage. Les peintures de La Pointe, d'Alex Nevsky, des juges, un peu, tout ça. Il y a eu full reportage. Ça a été très bon pour elle. J'ai vu ça. Bravo en passant. Imagine-toi, si je l'avais acheté, il y a 6 mois, sûr que ses tableaux ont augmenté, là. Sûr. Elle a eu un rayonnement provincial avec ça. Elle a fait parler d'elle partout. Tant mieux si ça a augmenté pour elle. Mais j'aurais dû, là. Il a raison, ton gars, quand il dit faut acheter, quand c'est pas trop connu, à part quand ça commence. Parce que là, quand tout le monde voit ça, puis que la demande augmente, ben là c'est
lui,
plus cher.
Là. Fait qu'il a fait beaucoup d'argent, là. Fait que, non, c'est très intéressant. Puis je vais juste terminer avec, il m'a donné un conseil à la fin. Il dit, si vous lancez là-dedans, oubliez jamais que vous devez aimer les œuvres que vous allez acheter.
Oui, faut pas que tu le fasses juste pour le cash.
Mais non. Exact. Sauf qu'il y a une raison financière quand même à ça. C'est que si vous aimez l'œuvre que vous avez achetée, ben dites-vous une chose, la personne qui va vouloir racheter votre œuvre, elle va l'aimer aussi. Si vous achetez un tableau parce que vous pensez que vous allez faire de l'argent avec ça, mais vous le trouvez laid, puis vous l'aimez pas, mais ça se peut que la majorité du monde le trouve laid aussi, puis ils veulent pas le racheter. Non, mais c'est vrai. Bon. Fait qu'il dit, il faut que vous aimiez votre œuvre parce que dites-vous que le goût, il y a un certain goût qui est universel. Alors, si vous aimez ça, il y a des bonnes chances qu'il y ait bien du monde qui aime ça aussi, puis qui veulent le racheter après. Là.
Bon, alors je sais que ça a un petit côté pour certains, mais ça l'est pas. On a parlé de tableaux en passant 100, 200, 300. Là. Ça peut, mais pour certains, ça va être élitiste un peu. En raison de ce milieu-là qui est un peu snobinard, mais regarde, ça peut vous intéresser, on le fait pas pour convaincre des gens. Sachez que nos prochains reportages, ça va être sur les BD, on va regarder le monde des bandes dessinées, peut-être des bouteilles de vin, des cartes d'hockey, des cartes de sport, des cartes de Magic, pourquoi pas. Y a-tu moyen de faire de l'argent ailleurs que la bourse et l'immobilier? Petite série qu'on a commencé ici dans Bouchard en parle. Vos commentaires, vos suggestions, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à partager leur expérience? Genre de tableau, là, vous en avez acheté, puis ça vaut la peine? 25226 par texto.